Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Et les gens m'appellent, ils me disent « Mais regarde, il se passe un truc sur Internet, regarde, s'il se passe un truc, comment tu fais pour y croire quand personne n'y croit ?» Et à l'époque, j'avais peur qu'on se moque de mon fils à l'école. Donc en fait, c'était une rumeur sur moi, je le savais, c'était « Non mais il est fou !» Moi, je suis optimiste quand je vois votre génération, déjà.
Comment ça va, Fred ?
Eh ben moi, super bien. Et toi ?
Mais moi, ça va très bien. Je suis très content que tu nous accueilles là sur ton... On peut dire, j'ai pas envie de dire plateau de tournage, parce qu'en fait, on dirait pas du tout un plateau de tournage, on dirait juste une maison normale. Et on est un peu loin de Paris, on a tous fait le déplacement pour venir, mais ça fait très longtemps.
Ça me touche que tu sois venu jusqu'ici, dans ce décor et tout.
Ouais.
Et toi, ça te change un peu ?
De Paris ? Oui, ça change un peu. De ma cave, tu veux... On peut dire la vérité aux gens. À la base, je t'ai proposé de le faire dans mon studio et tu m'as dit « Ah, le fond noir, je sais pas, je me vois pas. » En plus, c'est vrai qu'on tourne en sous-sol. Donc vraiment, tu m'as dit « Bon, le faire dans une cave, je suis pas sûr. »
Parce que je suis tellement habitué dans la nature. C'est quand tu fais Terre inconnue, la parenthèse inattendue, dimanche ouais. À la campagne. D'un coup, de me retrouver enfermé dans un studio, c'est super compliqué.
Tu fais très peu d'interviews. Tu te livres assez peu. Donc ma première question, c'est pourquoi t'as accepté de te livrer à moi et de faire cet entretien avec
Alors,
moi.
Alors on peut raconter les coulisses.
Bien sûr.
J'ai rencontré Bifle Oli et surtout Oli ouais. Quand il a participé à Rendez-vous en Terre Inconnue. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce gars. Je l'ai trouvé d'une maturité incroyable. C'est une vieille âme en fait. Très très intelligent, très sensible, très pudique. Puis il y a eu la fête de fin de tournage. On était assez euphorique, qu'on avait vu le film sur grand écran, ce qui n'est pas souvent ouais. Pour Terre Inconnue. Donc c'était un événement. Donc il y avait déjà ce contexte comme ça un peu euphorisant. Et il y a eu plein de potes à lui, mais il m'a présenté personne. Et la seule personne qui m'a présenté dans la soirée, il m'a dit je te présente Ben. Il m'a interrompu, j'étais en train de parler à Ben, il m'a interrompu. Il dit viens, je te présente quelqu'un. Je me dis s'il le fait, donc j'étais très attentif. Et je te présente Ben. Est-ce qu'on peut dire la phrase que toi tu m'as dit ?
Bien sûr. Tu veux que je la dise ?
Ah bah, pour que les gens qui nous regardent comprennent.
Oui, je crois qu'en effet, c'est la première chose que je t'ai dite, que les gens m'appelaient le Fred Lopez de YouTube.
Alors, moi, je ne savais pas si c'était vrai, mais je trouvais que c'était une punchline rigolote.
Ah, je peux te le dire, c'est faux entièrement.
Non, voilà, maintenant, tu peux dire. Mais je trouvais que c'est une punchline rigolote. Et d'ailleurs, je ne savais pas ce que ça voulait dire, en ouais. Fait. Est-ce que toi, tu as compris depuis pourquoi ?
J'ai beaucoup dit en émission que tu fais partie de mes inspirations. Je raconterai tout à l'heure vraiment la première inspiration que j'ai eue de toi. Et en fait, c'est assez touchant parce que là, on est là tous les deux aujourd'hui. Mais en fait, sans toi... Je serais même pas là à faire des émissions quoi.
Mais c'est du storytelling ou c'est vrai ça ?
Non, c'est vrai, bien sûr. Ah non, c'est vrai. Et t'as pas été le seul, mais pour moi t'as été la révélation. Racontons l'histoire maintenant en fait, parce que on
commence. Tard.
J'ai rien prévu. moi, je suis la vraie histoire, c'est que je suis au lycée. Je sais pas trop ce que je veux faire de ma vie et j'allume France 2. C'était France 2.
Ouais.
Et je vois donc toi sur un plateau accompagné d'un psychologue et je vois ça parle du bonheur.
Ça s'appelle Leur secret du bonheur.
Leur ouais. Secret du bonheur. Et en gros, donc il y a des magnétos, il y a des parties en plateau, etc. Et on parle quand même d'une époque où on se livrait assez peu en émission. Je trouve que la télé était assez aseptisée, c'était beaucoup de divertissement, ça rigolait beaucoup. Mais il n'y avait pas de choses vraiment où on se posait, on disait « Allez, maintenant, on est en prime time et on va se poser des questions sur nous-mêmes ». Et j'ai trouvé ça incroyable. Et moi, ça a été la première, tu vois, le premier déclic où je me suis dit « Ah, ok, donc ça, c'est possible. On peut partager de l'humain, on peut se poser des questions. » Et ce truc de transmission, j'ai trouvé ça génial. Et la première fois que je t'en ai parlé, j'ai trouvé ça encore plus génial parce que tu m'as dit « Ça n'a pas été un succès, cette émission. »
Non, non, alors c'est fou parce que c'est une émission qui était regardée par 2 millions de personnes. Mais ouais. À la télévision, prime time, c'est pas un succès, il faut ouais. Plus de gens. Et je m'étais battu très longtemps pour que ça existe. Parce que moi, j'ai été sauvé, on va dire, par la psychologie, par le développement personnel. Et à chaque fois que je découvrais quelque chose, je voulais que le public connaisse ça. Et en même temps, je me suis mis sur les épaules un truc énorme, c'est faire du prime time. Le prime time, t'affrontes Harry Potter, Koh-Lanta, etc. Et toi, t'es là en train de faire de la psychologie, de développement personnel. Et en fait, l'émission a été un échec, en fait, hein. Ça a été très violent, d'ailleurs, à vivre, parce que je m'étais vraiment battu pendant des années et tout ça. Et puis, je me souviens du jour où je sais que c'est la dernière, parce que voilà, elle a fait 7% de part de marché en prime ouais. Time, c'est pas possible. J'arrivais pas à sortir de sous ma couette, je pensais que tout le monde allait se foutre de moi, etc. Mon attaché presse me dit, écoute, il y a TV Mag, qui est un magazine important, qui a été toujours là pour mes émissions. Il me dit, faut y aller et tout, mais j'avais l'impression que tout le monde allait se moquer de moi. Mm-hmm. Parce que quand on vit un échec, on a l'impression qu'on n'est pas adéquate, quoi. Et je me souviens qu'il y avait Mireille Dumas, qui m'a croisé comme ça. Elle me dit, ne te confonds pas avec ton entreprise, parce qu'évidemment, pour l'entreprise, c'est pas génial. Et puis, j'ai vu que tout le monde était sur son histoire, chacun dans son histoire. Et en fait, c'est important, et ça me plaît de parler de l'échec, parce que on croit toujours que c'est ce qu'il y a de plus grave, alors que finalement, non. Et en fait, il y a des échecs qu'on aime. Moi, j'ai adoré faire ça. Et donc, c'est troublant pour moi de savoir que ça a pu réveiller des vocations. C'est même hyper touchant. Je le sais pour mes invités, je m'en rends moins compte pour moi. C'est-à-dire que mes invités, quand ils racontent leur histoire, je sais que c'est inspirant. Et donc voilà. Donc moi, ça m'a touché quand tu m'as dit ça. Et puis, en fait, il se trouve que j'avais vu ton travail. Il se trouve que j'avais vu Insomnie.
Ouais. Avec Bilal Hassani.
Avec Bilal Hassani, j'avais trouvé ça incroyable. D'abord, l'idée, parce que finalement, je sais pas ce que c'est nos points communs, mais en tout cas, je vois que t'es shooté à l'intime.
Ah, c'est beau.
Je vois chez toi, et je dois le reconnaître chez moi, que parler de la pluie et du beau temps, ça m'intéresse pas tellement, et que j'ai besoin d'aller chercher ce qui se passe à l'intérieur, c'est quoi notre moteur, etc. Et puis j'ai vu que t'avais le sens des concepts, et c'est vrai que moi je me suis battu pour plein de concepts à la télévision, et j'avais trouvé cette interview hyper touchante, et je t'avais trouvé vraiment touché, et j'avais trouvé qu'il y avait une sorte d'authenticité qui dénote, en fait, parce que c'est vrai que quand il y a des caméras, des micros, etc., on n'est jamais naturel. Et toi, t'avais ce ton un peu calme, etc. Je te trouvais plus calme que moi à ton âge. Moi, j'étais très excité. Ouais, je me suis calmé avec l'âge.
Okay.
Mais en fait, je te trouve d'une maturité incroyable.
Tout à l'heure, tu disais que tu t'es beaucoup battu pour des concepts. Il y a un concept dont j'ai envie de parler, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont découvert grâce à ça, c'est Rendez-vous en Terre Inconnue. Est-ce que quand tu vends ce format, en tout cas quand tu le présentes à des télévisions, on te dit go tout de suite?
Non, ça m'est jamais arrivé. ça m'est jamais arrivé. Et en fait, non, Rendez-vous en Terre Inconnue. Il faut savoir que j'avais 23 ans quand j'ai imaginé l'idée. J'étais à Télé Lyon Métropole, donc à l'époque, personne jamais m'aurait suivi. Ensuite, j'étais viré de la télévision. J'avais, je sais pas quel âge, 33 ans, et je voulais arrêter. C'était un milieu trop, trop dur pour moi. Ouais. Et j'étais sur le divan du psy, et le psy me dit, bon, c'est quoi les moments qui sont les plus forts pour vous? Et je me souviens de choses incroyables quand j'étais sac à dos en voyage. Et lui me dit, bah, faites une mission de voyage. Si j'avais parlé de brocante, il m'aurait dit, faites une mission de brocante. Et je repense à ce que j'avais écrit des années avant. Et là, ça a été un peu compliqué, parce que d'abord, je n'avais jamais pensé à du prime time. Ça me faisait trop peur, l'exposition comme ça. J'avais pensé à France 5. Et sauf qu'à ce moment-là, donc le concept, c'est que je partais au bout du monde avec une personnalité, et que c'était pas de quelque chose d'objectif, mais c'était subjectif, c'était à travers le regard de cette personnalité. Et en fait, c'était la mode de la télé-réalité à ce moment-là, et France 5 dit, on va pas faire télé-réalité. Et c'était horrible, parce que moi, je savais que c'était du documentaire. Donc ça a mis plutôt beaucoup de temps à venir. En fait, en tout, ça a fait 4 ans. Mais tous mes concepts, hein, Panique dans l'oreillette, c'était 7 ans. Donc moi, je suis réputé dans le métier pour avoir une sorte de détermination comme ça.
Parce que là, sur Rendez-vous en Terre Inconnue, par exemple, c'est quoi le déclic qui fait que ça signe, finalement?
France 5 finit par dire oui. Et du coup, je suis parti avec Thierry Lhermitte, qui était le premier invité à Madagascar. Alors Thierry, en plus, il est quelqu'un de très pudique. En fait, c'est pas quelqu'un... Donc pour la télévision, c'est très compliqué parce qu'il dit pas ses émotions.
T'as pas eu le meilleur premier invité, plus facile.
Non, mais il était juste incroyable d'abord, parce qu'il part dans quelque chose qu'il connaît pas. Ensuite, il kiffe le voyage, il a adoré les gens qu'on a vus, il est toujours en contact presque 16-17 ans plus tard avec les gens sur place. Et voilà, il y a eu 4 numéros sur France 5, et puis ça s'est arrêté à nouveau. Et c'est revenu ensuite sur France 2 en prime time. Et donc du coup, c'est une espèce de truc un peu bizarre, où à un moment donné, bon, tu t'y crois plus, en fait. À un moment donné, mes amis me disaient, bon, arrête en fait. Arrête de te battre, tu vois que les gens n'en veulent pas. C'était pareil pour Panique dans l'Oreillette, c'était pareil, personne n'en voulait.
Il y a un moment où ça t'a persuadé que c'était une mauvaise idée? Si personne n'en voulait?
En fait, ce qui est complexe, c'est que tu sais, une idée, ça ne vaut pas grand-chose, c'est comment tu la réalises. Il y a le style, il y a la manière de faire, la sincérité, l'éthique.
Et finalement, cette première émission, c'est un succès direct?
Alors, l'émission de France 5 avec Thierry Lhermitte, je me souviens de l'AFP, qui avait écrit un film qui vaut plus que tous les discours sur la déforestation. Et pour France 5, c'était important. Wow. L'AFP dit ça, c'était fou. C'était fou que ça existe enfin, en réalité. Donc non, j'étais très heureux, très heureux. Alors ne parlons pas de l'arrivée sur France 2 ou alors après une nouvelle année de chômage. Quand on dit chômage, ça veut dire vraiment j'ai rien, je fais que marcher. J'apprendrai plus tard que le plus grand antidépresseur, c'est la marche, mais c'est que marcher. Et quand l'émission arrive, il y a les forums à l'époque, il n'y a pas autant de réseaux, il n'y a pas Twitter. Et les gens m'appellent, ils me disent, mais regarde, il se passe un truc sur Internet, regarde s'il se passe un truc. Et on ne savait pas, nous, si les gens allaient être aussi émus en 2 heures que nous, on avait été émus en 3 semaines.
C'est une de mes émissions préférées, avec la parenthèse inattendue, évidemment. Mais cette émission-là, il y a un truc qui est fou, c'est que tu sens que chaque invité, qui sont quand même des personnalités, donc c'est des gens qui ont de l'ego, c'est des gens, tu vois, qui gèrent leur image, etc. Ils lâchent tout à un moment, et tu sens qu'ils ont tous appris des choses sur eux. Mais il y a une personne qui a fait toutes les aventures, et on ne sait pas ce qu'il a appris sur lui-même, c'est toi. Parce que tu le dis jamais, alors qu'en fait, toi, tu es le seul qui a vécu toutes ces aventures-là. Qu'est-ce que tu dirais que ces voyages, ils t'ont appris sur toi?
Alors, pourquoi on ne sait pas? Parce que moi, je suis, pendant très longtemps, je ne m'écoutais pas. Donc, j'étais tellement concentré sur ce qui se passait. Parce que c'est angoissant. En fait, c'est évidemment un voyage, mais c'est aussi un tournage. Et donc, j'emmenais les gens au bout du monde. Et on allait. Les actions, c'était quoi? C'est aller chercher du bois. Donc, je me disais, est-ce que c'est passionnant? Donc, j'étais complètement connecté aux invités. J'étais en fusionnel avec les invités. Et je dis souvent, un lever de sourcil, moi, ça me fait un quart d'heure de programme. C'est okay. Que l'invité dit, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et donc, je me posais même pas la question de ce que je ressentais, pour être sincère. Par contre, j'ai commencé à être vite déchiré à la fin. C'était terrible de dire au revoir à des gens qui nous avaient fait confiance alors qu'ils étaient méprisés dans leur propre pays. Et donc, c'est tellement de choses. Pour répondre à cette question-là, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça a transformé ma vie. Déjà, sur l'humanité, c'est que l'être humain, il peut s'adapter à toutes les situations. Quand tu es dans la cordillère des Andes, franchement, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Et bah, ils mangent des pommes de terre et puis ils s'entraident. C'est l'Aïni, la réciprocité. Je t'aide aujourd'hui, tu m'aides demain. Et en fait, tous les gens au bout du monde, ils sont dans la coopération. Et c'est quelque chose qu'un peu on a oublié, la modernité. Il y a plein de trucs chouettes dans la modernité, on ne peut pas dénigrer tout. Mais on est devenu un peu individualiste et il y a une forme de solitude extrême. Mmh. Pendant que moi, je suis dans le désert avec Civitestu et qu'on est au Tchad et que les mecs disent « moi, je ne me sens jamais seul ». Dans le même temps, en Angleterre, pour la première fois de l'humanité, on nommait une ministre de la solitude. Et donc en fait, j'avais, tu vois, quand j'étais au bout du monde, il n'y a pas évidemment les portables, la télévision. Et donc, du coup, moi, j'étais bouleversé par ça, par le sens de l'adaptation et par l'entraide, en fait. Et ça m'a dit beaucoup de notre nature humaine. Après, ce que moi, ça m'a appris sur moi, waouh, c'est chaud parce que ce n'est pas quelque chose que je me suis demandé.
C'est vrai?
Ouais, je te promets, j'étais bouleversé par ce que j'avais reçu, par ce que j'avais appris. Et qu'est-ce que ça m'a appris sur moi? C'est que je m'écoutais pas beaucoup à l'époque. Parce que mon équipe me disait, mais c'est bizarre, tu te plains jamais. C'est pas normal de pas se plaindre quand il fait moins 20, etc. Et en fait, c'est comme si je bloquais tous mes sens parce que j'étais concentré sur l'invité qui me fait confiance. Moi, je suis bouleversé quand on me fait confiance. Donc, il y a les gens qui acceptent de nous recevoir, qui nous font confiance. Et puis, les invités dont tu parles, ouais. Dont le métier, c'est de donner des émotions, chanter, d'être acteur, etc. Mais leur image, c'est leur fond de commerce. Ouais. Et ils acceptent de partir sans maquilleur, sans rien. Et moi, j'avais envie qu'ils soient contents. Quand on me fait confiance, c'est à la hauteur de la confiance, mais un peu plus. Et donc, en fait, j'avoue que je ne me suis pas beaucoup demandé ce que ça m'avait apporté.
Et je trouve qu'il y a une émission qui prend très bien le contre-pied et qui va encore plus loin que ça, et qui m'a beaucoup marqué, c'est celle avec Malik Bentala, où en fait, vous partez pas à l'autre bout du monde. Là, vous allez dans les Cévennes et vous rencontrez des gens extraordinaires. Et je trouve que c'est un très beau message aussi de se dire que des fois, le voyage, il n'est pas proportionnel à la distance. Des fois, le vrai voyage humain, c'est des fois le voisin d'en face, c'est juste sa propre famille, etc.
Ah, c'est clair, c'est clair. Et c'est vrai que c'était assez drôle parce que Malik, en plus, rêvait de partir au bout du monde. Donc, ouais. Il découvre au dernier moment qu'il va dans les Cévennes. En plus, il avait grandi à 2 heures de okay. Là, donc il en a fait des sketchs, je suis un loser, j'ai fait Terre Inconnue à 2 heures de chez moi. Mais on a rencontré des gens incroyables. Et dans les Cévennes, qui est un parc national, j'ai rencontré deux types de gens qui m'attirent beaucoup. Il y a ceux que j'appelle les résistants, qui ont résisté à l'exode rural. Et il y avait une sorte de mentalité à l'époque de l'exode rural, où on laissait entendre que les intelligents allaient à la ville et c'était les cons qui restaient. Donc ceux qui okay. restaient, soit ils n'avaient pas d'estime d'eux-mêmes, ils pensaient qu'ils n'étaient pas faits pour aller à la ville, soit au contraire, ils disaient « mais c'est du grand n'importe quoi ». Et c'est souvent le cas. Et puis il y a ceux que j'appelle les pionniers. Les pionniers, c'est ceux qu'on appelle les néo-ruraux, parce que moi, je suis convaincu qu'il y aura un exode rural à l'envers. J'en ai rêvé toute ma vie.
Okay.
Et après le Covid, on l'a vu. En fait, les gens se sont rendus compte que c'était quoi cette idée d'être dans le béton toute la journée.
Je crois que toutes les gens des grosses villes vont partir à la campagne.
On a cherché la verdure. Bah, on voit bien que passer une vie sous terre ou dans des bureaux à la Défense, les mecs, ils ont des super salaires, mais ils sont enfermés, comme disait Pierre Rabhi, dans des boîtes. Et par exemple, la Drôme, aujourd'hui, c'est impossible de trouver une maison. C'est le plus grand département néo-rural. Il y a beaucoup, beaucoup de citadins qui sont venus habiter là et qui faisaient des métiers intellectuels et qui sont mis à faire des métiers manuels. Parce que les études ont montré que c'est les métiers qui rendent les plus heureux.
Les métiers manuels?
Oui, parce qu'il y a un début, un milieu, une fin en fait. Et que c'est concret plutôt que d'être devant un ordinateur et d'être devant des chiffres.
Ouais. Il y a eu une grosse vague et je trouve que le Covid a ramené ça aussi, de ce terme de « bullshit job ». Ce truc où d'un coup, les gens se réveillent et se disent « mais à quoi sert mon métier? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je me lève le matin ?»
C'est fou cette histoire. Il y avait 40 millions de personnes aux États-Unis, alors que aux États-Unis, il n'y a pas la même protection sociale que chez nous. 40 millions de personnes qui décident d'arrêter sans savoir ce qu'elles vont faire. Ouais. C'est énorme.
Sans chômage, sans protection sociale.
Sans savoir ce qu'elles vont faire. Donc ça remet les choses en place. Et dans les CL, justement, c'est assez dur. Hein, c'est difficile de cultiver des choses. Et du coup, à la suite de ce tournage, alors que ça faisait 7 ans que je cherchais un endroit pour me poser, parce que moi j'avais déménagé beaucoup dans mon enfance, j'avais pas d'attache. Et du coup j'ai trouvé mon refuge dans les Cévennes, et donc j'habite pas loin de la famille Châtaigne.
Trop bien.
Parce que j'avais passé ma vie à dire adieu à des gens que je pouvais pas revoir, et eux je les vois tout le temps.
Génial.
Du coup.
Tout à l'heure tu parlais de ton fils, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui est une personne extraordinaire. Je t'avoue que tu m'en avais beaucoup parlé quand on s'est rencontrés. Je me suis dit, ah ok, est-ce que... Tu vois, moi, des fils d'eux, j'en ai rencontré plein dans ce milieu-là. Et il y a des profils complètement différents. C'est-à-dire qu'il y en a qui se recroquevillent et du coup qui n'assument plus ou qui sont en rejet total. D'autres, au contraire, il y a un espèce de truc presque de tout m'est dû, etc. Et on a à peu près le même âge, on est à peu près dans la même tranche d'âge. Quelle relation t'as avec lui? Et est-ce que t'as l'impression d'avoir été un bon père?
Waouh. En fait, on rêve tous d'être des bons pères. Oui. Et lui, comme il connaissait un peu mon histoire qui était compliquée, il avait l'impression d'avoir des super parents. Et j'arrêtais pas de lui dire, moi, non, attends, t'inquiète pas, nous, on a merdé comme tous les parents. Et je crois qu'aujourd'hui, il commence à réaliser que c'est pas si simple d'être avec un père qui était hyperactif, qui a passé sa vie à interviewer des gens, qui vit des success stories. Ouais. Mon fils m'a dit à 25 ans, papa, je crois que j'en ai marre de success story. C'est-à-dire, moi, j'ai envie d'entendre des histoires de gens normaux qui sont heureux, etc. Parce que ça met beaucoup de pression. Et donc, on a une relation très forte, très fusionnelle, où on se connaît par cœur, en fait, puisqu'on se séparait avec sa maman, il avait 5 ans. Donc, en fait, on était, il vivait soit avec sa mère, soit avec moi. Donc, on se connaît par cœur. Et donc, du coup, là, franchement, il est en colloque depuis des années. Moi, ça me plaît de voir comment il dit. Mes collègues, je les aime d'amour. Il a les mêmes potes depuis l'adolescence. Ouais. Il a beaucoup d'humour. Il n'a jamais allumé la télévision. Quand je faisais la parenthèse inattendue et que je demandais aux gens de raconter leur parcours, je rêvais de l'inspirer, lui. En fait, j'étais habité par ça. Quand les gens racontaient un truc, ouais, j'aime raconter des histoires de gens auxquels on n'a pas cru et que finalement... Ben en fait, il les regardait pas. Lui, il regardait YouTube, pour le coup. Mais c'est chouette. Et pendant très longtemps, il avait cette conscience de « je veux pas être le fils d'eux ». Donc, les gens à l'école, ça, machin, enfin, il se débrouillait pour pas le dire. Et puis, il y a pas si longtemps, je l'ai accompagné à son travail. Et il y a un gars qui est passé devant et qui lui a dit bonjour. Et après, il m'a envoyé un SMS. Il m'a dit « bon, ben voilà, maintenant, on sait que t'es mon père. » Ben quoi, t'as honte de moi ou pas? Donc maintenant, il dit « non, ça va, je suis pas le fils de Marine Le Pen. » Donc il dit, on a une super relation. Honnêtement, okay. Moi, je suis très admiratif. C'est quelqu'un, j'ai l'impression qu'il n'a pas une once de méchanceté.
Ouais, je suis assez d'accord. Du peu qu'on s'est vu,
j'ai jamais entendu dire du mal de quelqu'un. Il est super diplomate, super psychologue, il est très drôle.
Ouais. T'as l'impression que toi, t'es pareil?
Moi, j'ai l'impression. Alors, c'est une expression de Gérard Jum, mais moi, je crois que mon fils, c'est moi en mieux.
Ok.
Donc c'est vrai, je crois qu'il a des qualités que j'ai, mais il y en a beaucoup plus. Il a fait des tas de courts-métrages à partir de 15 ans, moi j'en avais jamais fait. Non, il est très futé, et très intelligent, très sensible, très très sensible. Il peut pas mentir, c'est impossible pour lui.
Ok.
Et donc, du coup, je le trouve assez pur en fait.
Ouais. Oui, c'est vrai que c'est ce que j'allais dire. Pour moi, c'est la pureté.
Ouais. Ah, mais ça me plaît que t'aies vu
ça. C'est assez agréable parce que je trouve que c'est assez rare aussi.
Tu qui vas être très gêné qu'on parle de lui comme ça.
Je sais, c'est pour ça que je t'ai posé la question. C'est plus pour lui que pour toi. Est-ce que t'as l'impression d'avoir eu des regrets où tu t'es dit, ok, là j'aurais dû mieux faire ou là j'ai peut-être pas été assez présent?
Il y a cette sensation où, effectivement, quand on voyage beaucoup, c'est vrai que comme j'avais une semaine sur deux, j'essayais de m'arranger quand même pour être là, mais j'étais souvent en retard.
Okay.
Et j'ai le souvenir, un jour, je sortais de l'émission de Ardisson, et en discutant, il y a Victor qui m'attend. Et en fait, je l'appelais, il me disait, mais ça va, déculpabilise-toi, alors qu'il était ado. Hein. Il parlait déjà comme ça, et en fait, tu parles, il était justement sur YouTube en train de regarder des vidéos. Non, lui, il est plutôt très, très indulgent avec moi.
T'as jamais reproché d'être trop absent?
Non, lui, il me reproche d'être trop protecteur.
Okay.
Et on sait quand on protège trop, ça fragilise. Donc je sais pas, j'ai fait de mon mieux de toute façon. Mais je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est que j'arrêtais pas de lui dire, écoute, tu sais quoi? Et souvent les parents ils disent ça pour rendre heureux leurs enfants. Tu sais quoi? Tant que t'es heureux, bah, c'est l'essentiel. Moi, ce qui compte, c'est que tu sois heureux. Fais ce que tu sais heureux. Le problème, c'est que cette injonction au bonheur, eh ben, ça laisse entendre que tu dois être tout le temps heureux. Et lui, comme il se sentait privilégié parce qu'il était fils d'eux, etc. Bah, comme tout le monde, il a des états d'âme. Il a des moments où il est triste et il se sentait coupable. Donc maintenant, je dis, t'as le droit d'être malheureux.
Ok.
T'as le droit d'être triste, et t'as le droit d'être malheureux, t'as le droit d'être en colère, etc.
Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que moi, c'est des choses que mes parents m'ont toujours dit aussi. Ils m'ont jamais dit, sois médecin, ou des choses comme ça, ou là où moi, j'ai plein de potes où leurs parents leur a dit, études longues, ou alors ce métier-là, exactement. Et c'est vrai que souvent, je me suis dit, ah, c'est génial, mes parents, ils sont très ouverts, et ils l'ont jamais dit d'une mauvaise intention, évidemment. Mais c'est vrai que le sois heureux, des fois, quand t'es pas heureux, t'as l'impression que t'as même pas réalisé le rêve que tes parents voulaient de toi, en fait.
Exactement. C'est exactement ce que tu dis, et ça, c'était une révélation il n'y a pas longtemps.
Est-ce que toi, tu étais un enfant qui était très ouvert et curieux des autres? J'essaie de trouver, tu sais, ton moteur, en fait. À quel moment tu t'es dit, je vais m'intéresser aux gens?
Je crois que dans l'adolescence, on cherche, et tout le monde se cherche. Et moi, déjà, je posais des questions, les gens se confiaient, j'étais vachement à l'écoute, j'étais fasciné. Et je me rendais compte que c'est parce que ce que racontaient les autres, c'était comme si je vivais par procuration. C'est un morceau de vie que j'aurais pas. Donc je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ensuite, à la vingtaine, on allait dîner chez des amis. Et quand on rentrait à la maison, la mère de mon fils me disait « Mais attends, un dîner, c'est pas une thérapie de groupe ?» En fait, moi, je me rendais pas compte. Fallait que je parle, parce que j'avais une enfance qui était compliquée pour moi.
Et ça parlait pas moi. Il y a que toi qui parlais ?
Non.
Ah non, d'accord.
Ah non, non, j'interrogeais les gens.
Ok.
Je les faisais parler, les gens, ils adoraient ça et tout. Et donc, il fallait que je me calme, il fallait que je sois plus dans l'écoute. Je sais pas comment c'est venu. Je crois qu'en fait, quand on a un enfant hypersensible, on est hyper empathique.
Ouais.
Moi, j'ai eu des moments de mon enfance où il y avait vraiment de la solitude, etc. Et en fait, j'étais hyper empathique. Quand on est dans un groupe, je vois tout de suite ceux qui s'embêtent. En plus, j'avais une sorte d'hyper empathie un peu débile. C'est-à-dire qu'on partait au ski, par exemple, quand j'étais jeune, à 12, il y avait une personne qui oubliait ses gants. Et je me rappelle que je me gâche le week-end parce que je me dis, non, c'est pas parfait, il y a une personne qui a froid aux mains. C'est du grand n'importe quoi. L'empathie, c'est bien, l'hyper empathie, c'est n'importe quoi. J'ai jamais su à quel moment ça s'est déclenché. Je pense que c'est l'adolescence.
Comment on se retrouve dans un milieu qui est très dur humainement quand on est hyper empathe? Parce que la télé paraît être le dernier endroit sain, tu vois, pour quelqu'un qui chope les énergies, aspire les ondes négatives et puis se retrouve dans un milieu où la concurrence se fait beaucoup ressentir aussi.
Je me suis souvent senti inadapté.
Ouais.
En vrai, je vais rencontrer Roselyne Bachelot qui était dans la politique et dans la télé. Ouais. Moi, je pensais que la politique, c'était horrible. Sans foi ni loi, elle me dit, mais la télé, c'est pire.
Ah ouais ?
Et ça m'a réconforté de me dire, ah d'accord, j'ai pas rêvé.
Je suis pas fou, ok.
Ouais. C'était compliqué pour moi, je comprenais pas toujours. En plus, moi, je suis un peu cash, un peu direct, je dis les choses, etc. Et c'est un métier où les gens, souvent, ils vous sourient et ça se passe quand vous êtes pas là, etc. Donc, c'était très compliqué. J'ai eu envie d'arrêter plein de fois, plein de fois. Et c'est marrant parce que j'étais obsédé par le sens. Et j'avais l'impression que ça pouvait apporter quelque chose. Quand je fais Terre Inconnue, c'est n'ayons pas peur des autres, dans une période qui est un peu compliquée. Je me dis, faut que ça existe. Quand je fais la parenthèse inattendue à l'époque, c'était parce que j'avais envie que ça donne de l'espoir aux gens. Et regardez, il n'y a pas les winners et les losers. Il n'y a vraiment que des humains sur cette Terre qui sont tous vulnérables, qui rêvent. Et des fois, ça ne fonctionne pas. Des fois, on vous humilie. Et puis, il y a un moment où il y a une éclaircie. Et donc, j'avais l'impression que ça avait du sens. Et donc, c'est ça qui m'a fait tenir, en fait.
Ouais.
Moi, j'ai été souvent protégé par le succès. Donc, c'est les téléspectateurs qui m'ont protégé. Mais j'ai été viré trop fort en plein succès.
Ouais.
Parce que je vois ma bouche, parce que j'étais trop direct. D'ailleurs, j'ai mon psy à l'époque qui me disait « Mais grandissez !» Je disais « Mais grandir, ça veut dire accepter le cynisme. » Donc, c'est un univers... très dur. Alors, je ne vais pas trop dire pour ne pas décourager, mais c'est aussi marrant parce qu'à un moment donné, comme j'étais un peu direct et que je disais les choses, on me disait « mais il est complètement fou ». Donc, en fait, c'était une rumeur sur moi, je le savais. C'est « non, mais il est fou ». Parce que justement, j'étais pas...
Les gens pensaient premier degré que tu étais...
Non, mais il est fou d'être aussi direct. Quoi.
Okay.
Et un jour, Christophe André, qui est un vrai psychiatre, m'a dit « tu vis dans un hôpital psychiatrique ».
Ok.
Et donc, c'est intéressant quand c'est les fous qui te font passer pour un fou. Évidemment, au milieu de tout ça, il y a eu des gens incroyables. Souvent des femmes.
Heureusement.
Souvent des femmes. Il y a eu des gens incroyables et j'ai trouvé ça incroyable. J'avais toujours de la compassion pour ces gens que j'ai, qui ont cru en moi, etc. Qui, eux, vivaient aussi dans un monde très violent. J'ai eu des patronnes qui étaient incroyables, qui ont été virées en plein succès aussi, etc.
Il s'est passé, je trouve, quelque chose d'assez improbable il n'y a pas longtemps. On t'a vu dans une série de Jonathan Cohen qui est Le Flambeau. À une époque où on te voyait plus du tout à la télé en plus. Et c'est vrai que moi, quand je t'ai vu dedans, je me suis dit, oh, ok, alors ouais, génial de te voir. Est-ce que déjà tu as eu des retours par rapport à ça? En plus, c'était un moment où tu n'étais plus du tout dans les médias, etc. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un nouveau public qui t'a découvert via cette série?
Ce qui était rigolo, c'est que j'avais vraiment adoré La Flamme.
Ouais.
Et je me rappelle avoir pensé, et là aussi, je ne sais pas quelle est la morale de l'histoire, mais je me rappelle avoir vu ça et je voyais le casting incroyable et je me disais, oh, ils ont dû bien se marrer quand même. Et j'étais dans les Cévennes en train de regarder ça sur un écran et je me disais, oh, ça va être cool de faire partie d'une bande comme ça. Et deux mois plus tard, il y a Jean Tou, qui est un très proche de Jonathan Cohen, que j'avais croisé. Il me dit, écoute, il t'a écrit un rôle et tout. C'était un truc de dingue.
Il t'a écrit
c'était
un rôle.
C'était improbable. Il t'a écrit un rôle parce qu'en fait, je joue mon propre rôle. Et il faut voir la série, épisode 7. Mmh. Et moi, j'ai dit oui parce que je suis plutôt contrôle fric, c'est-à-dire que je suis obsédé par les détails et j'ai du mal à faire confiance. Et là, j'avais tellement aimé que j'ai dit, rentrons dans son monde, super.
Ouais.
Sauf que j'espérais qu'il me fasse un test ou je sais pas, qu'il vérifie que ça
fonctionne. Tu voulais un casting vraiment ?
Bah ouais, qu'il me teste. Moi, je vais être à la hauteur. Et en fait, il n'y a pas eu de test. Je me suis retrouvé tout de suite en Corse avec des gens qui m'ont accueilli de manière adorable. Et la Becti, Géraldine Nakache et Jonathan Cohen. Et alors, c'était drôle parce que dès quand j'ai commencé à sortir mes répliques, moi, j'avais appris par cœur mes répliques.
Okay.
Donc, je ne connaissais pas les siennes.
Ouais.
Et donc, c'était du n'importe quoi parce qu'en fait, je disais toutes mes répliques, je ne laissais pas dire les siennes. Donc, lui, c'est pareil. Il était cool. Je voyais tous ces gens qui regardaient et tout ça autour. Et de ne pas se sentir à la hauteur. Quoi. C'était,
parce que c'est un exercice complètement différent de ce que tu fais en émission. Ouais. Là, c'est de l'acting pur.
Oui, je n'avais jamais fait du tout. Alors, le truc, c'est que, tout un peu excessif. objectif et il faut être sincère. J'avais fait des émissions de cinéma et j'avais fait, mon idole c'est Louis de Funès. Et beaucoup de gens m'avaient dit, de Funès il est sincère. Même si c'est n'importe quoi, il a perdu son pendu, etc. Il vit un drame. Et donc à un moment donné, ils m'ont dit, voilà, t'es en otage depuis 5 ans, etc. Et je me suis imaginé le truc, je suis en otage depuis 5 ans, il y a des gens qui sont là et j'ai vachement peur. Donc je sais pas, je me suis fait un délire et puis je les ai observés autour de moi et surtout il m'a... Il m'obligeait à me lâcher, en fait. Et moi, je suis plutôt calme, tu vois. Donc, en fait, je me suis mis à hurler. Il me disait, plus fort, hurle, plus fort, plus fort. À la fin, j'ai hurlé. C'est-à-dire, j'avais jamais hurlé dans ma vie comme ça. J'avais jamais eu l'occasion. Et je me reconnaissais pas et tout. Et je pensais que ça passerait sur Canal+, que c'était crypté.
Okay.
Dans ma tête, c'était un truc d'initié. Et c'était vraiment une chouette expérience. Et ce qui m'a épaté, en tout cas, chez Jonathan Cohen, c'est que le gars, il dirige, il co-dirige avec un ami à lui. Donc, il fait tourner tout le monde. Et ensuite, il tourne ses scènes à lui. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, quand tout le monde est fatigué, je me dis, le mec, il tourne ses scènes. En fait, nous, c'est ça qu'on vient voir, c'est ses scènes à lui.
Ouais.
Donc, il est d'une générosité exceptionnelle, alors qu'il est au top de sa carrière.
Ouais.
Ça m'a touché d'être là-dedans, à ce moment-là de ma vie.
Là, on est sur le plateau d'une émission, d'une nouvelle émission. Pour moi, c'est nouveau, mais en fait, c'est une nouvelle version de La Parenthèse Inattendue,
ouais,
qui s'appelle Un Dimanche à la Campagne. Là, on est en fin de quatrième émission, c'est ça ? Comment ça s'est passé, la première ? Est-ce que ça faisait combien d'années que tu n'avais pas tourné ?
J'avais pas fait cette émission depuis 8 ans.
Ouais.
Et j'avais pas tourné depuis 4 ans.
Je vois déjà, moi, quand je prends des vacances d'été et à la rentrée, j'ai une petite appréhension sur la première émission parce que je me dis, ah, je vais pas être bon, je vais être rouillé, comment je vais aller chercher les infos, etc.
Et voilà, ça, plus puissance 1000.
Ouais.
Quand l'émission a approché, waouh, j'avais, je sais pas, quand on est entraîné, ça va, c'est presque naturel. Mais quand on l'a pas fait depuis longtemps, ça devient, bah, pense à tous les gens qui ont peur de parler en public. J'étais J'étais presque dans cet état.
Et c'est fou comment c'est un muscle.
Ouais.
Et qu'en fait, si t'arrêtes, t'as l'impression que c'est naturel. Et en fait, tu te renfermes vite. Moi, je me rends compte que je suis très introverti, en fait. Et que si j'arrête mes émissions, je redeviens à mon état naturel.
Et ben, c'est un peu ça. C'est que moi, j'avais oublié, ça faisait longtemps que je faisais de l'antenne. Au début, je trouvais ça super de ne pas être exposé.
Ouais.
De ne pas être dans la lumière. Parce que quand on est exposé, on s'expose à la critique, aux commentaires. Et puis, il faut assurer, il faut performer, il faut que ça marche, sinon ça n'existe pas. Donc, il y a une espèce de dictature de l'audimat dont on a beaucoup parlé, mais qui est terrorisant. Et j'avais très, très peur de ne pas être à la hauteur. Et j'avoue que j'ai été sauvé par les invités, en fait.
Ouais.
C'est quand ils sont arrivés. Donc, Big Flo et Oli, Barbara Schultz et Charlotte de Turckheim. C'est marrant parce qu'ils étaient assis là où on est assis, mais ils ont vraiment commencé à se vanner tout de suite. Et c'était assez magique. Et la mayonnaise prenait. Mais moi, j'avais l'impression d'être en dessous. En fait, j'avais l'impression d'être en dessous. C'est le fait la poule. C'est-à-dire que tu sens que t'es pas dedans et en même temps tu t'en veux pas dedans. Et donc, du coup, j'étais à nouveau content d'être là. Mais j'avoue qu'au début c'était très difficile.
Et tu sens que c'est plus compliqué de convaincre les invités ou qu'en fait, justement, le fait que l'émission est un peu culte.
L'émission elle est pas faite pour tout le monde.
Ouais.
Parce qu'il y a des gens qui aiment pas se raconter. Je pense à Clara Luciani, qui a vraiment vécu une adolescence qu'elle souhaite à personne. Et donc, du coup, de voir que cette gamine qui s'est réfugiée dans l'écriture, etc. Aujourd'hui, elle est sur scène, elle peut jouer à Bercy. C'est hallucinant, en fait, comme histoire. Et je pense qu'elle, ça lui plaît de raconter ça parce qu'elle a la sensation de donner de l'espoir.
Ouais, c'est drôle parce que c'est un vrai parallèle avec... Je vois la motivation aussi de mes invités, tu vois, à venir pour exactement les mêmes raisons, pour se dire, OK, on va pouvoir montrer une autre partie de nous. Je sais quand j'avais invité Pomme dans Tartine de Vie, par exemple, j'ai eu énormément de retours de gens qui m'ont dit « Ah, mais en fait, elle n'a pas du tout le même caractère qu'on voit tous depuis des années à ce moment-là, sur les plateaux, où elle est assez sage, etc. » Là, on la voit détente, elle fait des vannes, elle est un peu plus surexcitée.
Est-ce que tu as une idée de la raison pour laquelle elle se détend ?
Alors déjà, il y a plusieurs choses. Je pense que tu le vois, c'est comment on arrive à créer une atmosphère cool. Donc, c'est-à-dire comment les gens, quand ils viennent, ils sont assez en confiance avec moi pour savoir que je vais pas essayer de leur mettre à l'envers. Chose qui, moi, pourrait passer beaucoup de l'autre côté en promotion sur des plateaux, que ce soit télé, que ce soit radio, etc. T'es toujours un peu
méfiant.
En fait, tu attends la question, tu te dis à quel moment, en fait, ils sont gentils avec moi parce qu'ils vont arriver avec un pic et ils vont me la mettre à l'envers et il faut que je prépare la réponse. Tous les invités qui viennent savent qu'il va pas y avoir ça avec moi.
Et pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi t'as choisi qu'il y aurait pas ça ?
Parce que je crois que ça m'intéresse pas. Toi, j'ai regardé beaucoup aussi à l'époque de la télévision, Ardisson, etc. Et je vois qu'il y a des techniques d'interview qui mènent pas forcément au même type de réponse. Et je crois que là, pour moi, l'attaque est pas un truc qui me correspond déjà. Et essayer de bloquer les invités, pour moi, c'est des séquences qui sont très gossip, qui vont faire beaucoup réagir, mais qui ne vont pas activer les bonnes parties du cerveau émotionnellement. Et moi, je préfère voir des gens qui sont bien ensemble, qui discutent et qui d'un coup, du coup, ressortent des choses, des leçons de vie, des vrais moments d'émotion, que de forcer l'émotion.
Parce que toi, on a effectivement parlé de mon histoire, mais toi, tu me demandais à quel moment je me suis intéressé aux autres. T'arrives à te dire à quel moment tu sais, les autres t'ont intéressé ?
Bah comme toi, je crois que j'ai pas un, tu vois, il y a pas un événement. Pareil, il y a cette hyper empathie dont j'ai beaucoup parlé. Je raconte souvent l'anecdote d'une petite fille qui fait tomber ses gâteaux devant moi et où j'étais plus malheureux qu'elle parce que j'ai ressenti vraiment toute cette douleur, ce truc de dire ah non, voilà.
Et alors, comment t'expliques ton hyper empathie?
Je sais comment ça se traduit,
mais par contre, on comprend la souffrance des autres parce qu'on a souffert.
Ouais, et ça, je aujourd'hui, j'arrive pas à savoir. Pareil, en fait, quand j'ai eu 6 ans, ma croissance s'est arrêtée. Donc j'ai eu un traitement hormonal derrière. Et ça, en fait, c'est aussi une des choses où on ne sait pas, parce que ça peut arriver soit naturellement, soit après un choc traumatique. Et je n'ai jamais su, il faudrait peut-être que je fasse le travail là-dessus, mais je n'ai jamais su quel a été le déclencheur, tu vois. Et après, moi, j'ai passé toute mon adolescence et ma vingtaine, début de vingtaine, à traîner à 3-4 heures du matin dans les rues de Caen, dans les kebabs, discuter avec des gens qui n'ont rien à voir avec mon monde, mais où ça me passionnait, parce que je reste encore persuadé aujourd'hui que toutes les personnes ont au moins une chose à t'apporter, quelle qu'elle soit, et des fois tu t'en rends compte des années après. Donc je sais, il n'y a pas eu un déclencheur, mais je sais que moi c'est un truc qui est vital pour moi de rencontrer des gens et de
me nourrir de ça. Qu'est-ce qui t'intéresse chez les autres ? Moi j'aime beaucoup comprendre comment tu fais pour y croire quand personne n'y croit. J'ai vu que c'est une obsession chez moi.
Ouais.
C'est quoi les obsessions chez toi ?
Moi j'ai beaucoup parlé de l'échec, parce que je trouve que c'est une réalité de vie, et t'en parlais au tout
donc
début, tu vois.
Ouais.
L'échec me passionne plus que la réussite. Souvent la réussite, c'est un peu galvaudé parce que t'as que les gens qui réussissent qui te parlent de la réussite. Et surtout de se rendre compte que la réussite est très souvent une résultante d'une succession d'échecs et de la manière dont tu t'es relevé pour réussir. Je discute avec plein de gens qui me disent « Ah oui, mais un tel, il a réussi parce qu'il avait le réseau, il avait les contacts, il fait partie de la bonne famille. » Et en fait, tu te rends compte déjà en creusant que c'est faux. Moi, quand je suis arrivé à Paris, que j'ai commencé à rencontrer plein de gens, quand t'es venu au Trianon et que tu vois Camille Combal qui dit « Moi, je suis une anomalie », tu dis, mais attends, t'es un énorme animateur TF1, à quel moment t'es une anomalie ? Quand toi, tu me dis, c'est pas mon monde, la télévision, c'est trop dur pour moi, etc. Et que finalement, tu vois, tu fais partie des émissions qui ont été, qui sont encore cultes pour des gens, qui ont très bien fonctionné. Tu te rends compte que finalement, il y a la proportion de gens vraiment qui n'ont pas eu des échecs ou qui n'en ont pas chié un peu avant de réussir, elle est assez faible.
Bien sûr.
Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que plus on va en parler, plus les gens, quand ils vont faire face à un échec, et moi le premier, hein, c'est-à-dire que moi, quand je fais face à un échec, je me dis pas, bon, allez, on se relève, je me dis, qu'est-ce qu'aurait fait un tel ? Ou rappelle-toi du discours d'un tel. Ce que je lis le plus, c'est les autobiographies, je trouve ça passionnant.
Ah, c'est pareil.
Souvent, c'est un peu roman. C'est vrai ?
Ah, j'arrive pas à lire les romans, je lis que des biographies.
Ouais, moi, ça me passionne, je trouve que c'est les meilleurs romans, en fait. Mais donc, ça m'intéresse. Les échecs là-dessus, de se rendre compte à quel point il y a des gens qui sont arrivés à une étape parce qu'ils se sont pas relevés de cet échec-là, là où d'autres sont arrivés beaucoup plus loin parce qu'ils se sont relevés des 4, 5, 6, 10 échecs suivants. Quoi.
Je suis d'accord avec toi. D'abord, dans les pays anglo-saxons, dans les grandes sociétés, on embauche des gens quand ils ont eu au moins 3 échecs. Parce que c'est, comme dit Nelson Mandela, j'ai pas d'échec. Moi, c'est où je réussis, où j'apprends. Et on est dans un pays où ça ricane beaucoup.
Ouais.
Et c'est vrai que moi, comme toi, j'ai envie de montrer qu'il n'y a pas de gagnant et de perdant. Vraiment qu'on peut se planter. Moi, c'est pour ça que j'ai besoin de parler de mes échecs.
Ouais.
Souvent, dans les interviews en presse écrite, j'en parle et c'est coupé.
Ouais.
C'est coupé. Alors que moi, je fais exprès d'en parler pour dire aux gens, mais vraiment. C'est tout le monde. Et c'est ce qu'on appelle l'humanité commune, en fait.
Ouais.
C'est notre humanité commune. En fait, tout le monde rêve, tout le monde se casse la figure, tout le monde a des épreuves. Et ça réconforte, en fait. Et moi aussi, je me nourris des interviews des gens. J'ai fait une émission qui s'appelle Mille et une vies.
Ouais.
J'ai interviewé beaucoup de résilients. Et je me rends compte que ces histoires-là, de gens qui ont vécu des épreuves terribles, dont on se demande comment on peut surmonter, bah, ça m'a aidé dans ma propre vie, en fait.
Ouais.
Et quand je vis des épreuves, etc., je pensais à ce qu'ils m'avaient dit et je me sentais proche d'eux.
Ouais. Mais d'ailleurs, dans cette émission, il y a une fois où tu as un peu dérogé à ta règle de pas parler de toi, c'est justement quand tu as fait ton coming out, et où après tu as dit, voilà, j'en parle maintenant, j'en reparlerai plus jamais. Tu l'as fait par empathie avec ton invité, qui lui-même, son regard est incroyable, je trouve, quand tu le fais.
Le loup de Tex Avery.
Ouais, exactement. Il se dit, ok, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Est-ce que ça, juste, sans revenir dessus évidemment, mais est-ce que ça c'était calculé, ou en fait, toi-même, tu t'es laissé embarquer par l'histoire de la personne que tu recevais ?
Non, j'écoutais son histoire de papa et l'homoparentalité, et à un moment donné, c'est juste quand je lui pose une question, je lui dis, mais pourquoi vous choisissez de transmettre ça ? C'est une question que je pose souvent.
Ouais.
Et à un moment donné, il dit, parce que je sais qu'il y a des gamins qui se suicident. Et je connaissais les chiffres et je savais qu'il y avait le plus fort taux de suicide chez les adolescents. C'est ça, c'est quand ils découvrent qu'ils sont gays. Parce que c'est la peur du rejet, tout simplement. Mm. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'empêche d'en parler ? Et à l'époque, j'avais peur qu'on se moque de mon fils à l'école, parce que j'avais peur qu'il subisse, lui. Et comme il avait quitté l'école et tout, je me suis dit, allez, je peux le faire. Et j'avais les jambes qui tremblaient, parce que je parle jamais de moi en interview, parce que je parle pas de ce genre de choses, et parce que j'avais pas envie que ce soit le truc le plus important, parce que sinon, ça devient un truc très, très important, alors que c'est un détail. Je l'ai fait juste parce qu'il y a des gens qui sont foutus de chez eux, dehors. Il y a une association qui s'appelle Le Refuge, qui recueille des gamins qui sont rejetés par leur famille. Et voilà, je me suis dit, si ça peut aider, parce qu'il y a peut-être des gens qui aiment bien ce que je fais, et qui d'un seul coup vont se dire, ah ben, si lui aussi, alors. Et j'ai eu des témoignages incroyables, vraiment très très bouleversants, de gens qui m'ont dit, soit j'ai assumé, je l'ai dit à mes parents, qui j'étais vraiment. C'était chouette, c'était beau, et puis la seule chose aussi, c'est qu'à la fin, je disais, parce que j'ai eu du mal à accepter ma popularité pendant longtemps, okay. Parce que je me disais, mais les gens ne savent pas ce détail, peut-être que ça changerait quelque chose pour eux. Et donc je dis,
que les gens t'auraient aimé moins.
J'avais pensé ça. Okay. Consciemment, je pensais ça. Et du coup, quand je l'ai dit, j'ai dit, voilà, comme ça, les gens m'aimeront en entier. Et c'est ça qui était sur le retour. On vous aime en entier. Et c'est assez bouleversant. Et d'un coup, ça a changé totalement mon rapport au public.
Ouais.
Où d'un seul coup, je dis, bon, ben voilà, maintenant, je vais pas minimiser en me disant, mais ouais, mais si, ça va, ou je sais pas quoi.
Ouais.
Et, voilà, mais j'ai choisi de jamais en reparler parce que sinon, ça devient récurrent. Et puis, je peux pas commenter ma propre déclaration.
Ouais,
une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit, en fait.
Ouais.
Et ce qui était rigolo, c'est la reprise où il y avait marqué Frédéric Lopez, avoue son homosexualité, comme si c'était un aveu, en fait. Alors que ça peut être révèle, j'en sais rien. Mais ça me fascine de savoir que c'est encore un sujet aujourd'hui, de plein d'endroits dans le monde.
Ouais.
Hein. Puisqu'en fait, ouais, y a des gens qui sont choqués par ça, mais ça me fait toujours bizarre de se dire qu'il y a tellement de problèmes sur Terre. Et même quand les gens ont manifesté, par exemple, contre le mariage pour tous, tu te dis, mais je sais pas, manifester dans la rue pour obtenir des droits, c'est une chose, mais pour que d'autres n'aient pas les mêmes droits que moi, c'est un truc qui me dépasse un peu.
Carrément. Juste avant, on parlait des échecs. J'ai envie de te poser des questions sur tous les échecs que tu as eus. Mais s'il y avait un échec à retenir, qui t'a le plus appris ?
Pas celui sur l'émission sur le bonheur. À un moment donné, je faisais parce que je savais que le pays, en France, on était les pays les plus pessimistes du monde devant l'Afghanistan et l'Irak, ce qui est assez fou. Et le fait que ça marche pas, bon, je dis, voilà, j'ai fait ma part. Donc c'est intéressant aussi de vivre l'échec parce qu'on se dit, c'est pas grave, j'ai fait de mon mieux, en fait. Et puis surtout, tous les trucs des émissions, moi, je les ai testés. Donc du coup, ça a changé ma vie. Et puis, il y a eu des gens, parmi les témoignages les plus forts que j'ai reçus, bizarrement, c'était sur cette émission. Je pense à plusieurs personnes dans la rue qui sont venues des trucs incroyables. Et notamment, vous savez quoi, j'avais décidé de me supprimer avant cette émission. J'avais décidé d'arrêter de vivre. Et d'un coup, ça m'a redonné de l'espoir, déjà en pleurant. Donc cette émission, finalement, qui était un échec, elle a eu des conséquences incroyables.
Ouais.
Et notamment notre rencontre.
Mais c'est fou de se rendre compte que, et ça je pense que ça va parler à plein de gens, parce que c'est vrai dans plein de cas de figure, plein de projets de vie, que souvent, ce qui peut être un échec de prime abord, immédiatement, tu te rends compte des années après que ça l'était pas.
Y a une phrase, c'est marrant, c'était dans la bouche de Charlotte de Turckheim qui est venue faire cette émission, c'est une phrase... Je sais plus, c'est de sa grand-mère, mais il y a toujours un tant mieux dans un tant pis.
Ok.
Très bien. Et quand on étudie l'autocompassion, on apprend, ils appellent ça le silver lining of the cloud, c'est-à-dire que c'est le côté lumineux du nuage. Quand on voit un nuage et qu'il y a le soleil derrière, des fois il y a le soleil derrière et on voit la lumière sur le bord. Et c'est l'idée que dans nos vies, on a parfois vécu des trucs terribles. Et c'est marrant parce que pendant, on ne voit pas très bien ce que ça va nous apporter. Mais finalement, après coup, on se dit, grâce à ça, je ne reproduis plus ces erreurs. Grâce à ça, j'ai changé de direction. Je me suis détourné de ces personnes, etc. Et ça aussi, c'est important pour moi de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Même maintenant, des gens qui nous regardent et qui sont dans la souffrance. Ouais. Et de leur dire, c'est fou parce que dans quelques temps, vous allez peut-être vous rendre compte que c'était peut-être... il y a peut-être un temps mieux dans un tant pis.
Ouais. Toi, est-ce que tu as l'impression d'être... dans la souffrance ou t'as l'impression d'avoir d'être bien en ce moment?
Alors,
Colina
vient d'intervenir là-dessus.
Le chien de garde.
Ticolina, tu viens? Yala, viens.
Oh là là.
Donc tu sais, à cette question, souvent je dis, parce que comme j'ai fait des émissions sur le bonheur, on me dit, alors vous êtes heureux maintenant? Si je disais oui, ce serait un mensonge. Ça n'existe pas.
Ouais.
Ça n'existe pas. Et en plus, toutes les émotions qu'on appelle difficiles, comme la peur, la tristesse, c'est des choses qui sont là pour notre survie, en fait.
Ouais.
Et comme on a 25 pensées à la minute et qu'à chaque pensée, il y a une émotion, donc comme tout le monde, je suis traversé parfois par la tristesse, par le doute, par la colère, etc. Mais c'est vrai qu'avec tout ce que j'ai fait, 10 ans de thérapie, 10 ans de développement personnel, etc., c'est vrai que je m'empoisonne moins la vie qu'avant. Avant, j'étais très, très anxieux. J'étais pas capable d'être dans l'instant présent et on fêtait des succès par exemple et moi je me disais on n'a pas d'invité le mois prochain etc et c'était terrible, j'étais comme le capitaine de Titanic en fait
ouais.
Et
je suis exactement pareil, je suis vraiment comme ça
encore hein. Anxieux
je suis très anxieux et surtout je commence à travailler là-dessus, je ne fête jamais les victoires, c'est-à-dire que bah tu quand t'es venu au Trianon tu vois le rideau se ferme du Trianon, il y a 1000 personnes qui applaudissent, standing ovation, tout le monde hurle, je me tourne vers Juliette et je lui dis bon on fait quoi maintenant, vraiment je crois que c'était ma première fois, j'ai dû dire c'est incroyable évidemment ouais. et après j'ai dit bon
ouais, puis il a beaucoup
ouais, je l'ai beaucoup dit c'est mon côté américain quoi, c'est amazing, et tout de suite après je me suis dit, bon c'est quoi la suite, et je me demande si c'est pas un peu une fuite de faire ça,
et parce que t'as l'impression que tu savoures pas, t'as pas savouré du tout,
j'ai savouré mais je me dis à quel moment j'aurais pas pu continuer à savourer, tu sais, de passer la soirée à être bien, etc. Et plutôt que de me dire...
Est-ce que c'est pas plus la difficulté de recevoir ? Parce que là, t'avais quand même beaucoup de gens qui t'aimaient, 1000 personnes qui t'applaudissent, tes potes qui arrivent sur scène et qui ouais. font des papiers, on sent une complicité incroyable ouais. et beaucoup d'affection. Est-ce que c'est pas beaucoup
de pudeur,
souvent, ouais. c'est dur de recevoir.
Ouais, c'est vrai.
C'est plus facile de donner que de recevoir.
C'est vrai.
Est-ce que c'est pas plus ça, finalement ?
Non, c'est vrai. C'est vrai, et puis même, tu vois, même quand j'ai une vidéo qui marche très bien... J'ai l'impression de ne pas l'accepter et de me dire directement, bon, allez, il faut que la prochaine, elle marche bien.
Ah oui, donc je sais de quoi tu parles. Après, je connais bien. Je connais bien ça. On faisait 29% de part de marché. Je dis, mais c'est impossible de refaire un truc pareil.
Mm.
Mais parce que aussi, c'est la peur de décevoir.
Ouais.
C'est que d'un seul coup, quand ça marche, en fait, ça crée une anxiété partout, dans tous les domaines. On a peur de... On se dit, mais comment on peut reproduire ça ? C'est une espèce de théorie qui consiste à dire que forcément ça...
Ouais.
Donc moi, je crois que c'est ça aussi. Quand il y a beaucoup d'attentes, on a peur de décevoir. Mais ça demande, ouais, vachement de travail. Vachement de travail.
Toi, il te reste quoi comme chose à travailler sur toi-même ?
Intéressant. En fait, je ne suis pas quelqu'un de léger. Je me marque. Enfin, je suis bon public. Et je me marre, ou je peux faire des vannes, etc., et faire rire. Mais j'envie les gens légers, voilà. Alors, je ne sais pas comment ça se travaille. Je pense que c'est l'âge, tu vois, j'ai 55 ans, j'espère vivre encore longtemps, et peut-être que je serai plus léger en vieillissant. Ou alors, peut-être que je dis ça parce que là, j'ai repris l'émission, et j'ai à nouveau des responsabilités. J'étais plus léger quand je ne faisais pas d'antenne.
Ah, parce qu'il y a moins de pression ?
Ouais.
Il y avait moins d'injonction, peut-être, à ouais. être ouais. Frédéric Lopez.
Ouais.
Vraiment la personne qui va... Chaque rencontre, tu dois aller chercher, tu es obligé d'apprendre quelque chose de Fred parce que tu peux pas juste partager des blagues avec lui, quoi.
Je sais pas. J'ai des amis qui sont instructeurs de méditation et j'entends une copine ce week-end me dire « Ouais, je vais partir en Amérique du Sud, je sais pas, je vais rester 2-3 mois. » Je trouvais ça incroyable. Pouvoir dire « Je pars 2-3 mois. » Je pense que toi, t'es pas capable de faire un truc comme ça.
Impossible. Ah non, bien sûr. Déjà... En ce moment, je me dis, vas-y, je fais des week-ends. Et déjà, rien que de ne plus avoir de responsabilité pendant 2 jours, de me tenir loin de tout, ça m'angoisse.
Donc, tu vois, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on veut donner du bonheur aux gens, on ouais. veut transmettre, on veut que les gens se sentent mieux, qu'ils aient moins peur de l'échec. Et ça veut dire ce que ça veut dire aussi. C'est parce qu'en fait, ce n'est pas par hasard si on veut transmettre ça.
Ouais.
C'est que par définition, c'est que ça nous touche. C'est que nous, on avait peur de l'échec. Sinon, on ne serait pas obsédé par
sûr.
Cette histoire.
Je suis le premier à dire que l'échec fait partie de la réussite. Je suis le premier à ne pas accepter mes propres échecs et à tout faire pour éviter les échecs.
C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, j'ai... Tu vois, par exemple, je me suis lancé sur France 2, j'ai accepté la proposition de la chaîne et je crois que pour la première fois de ma vie, je vivrai autrement. C'est-à-dire que si ça marche, je serais heureux parce que ça voudrait dire que ça rend heureux des gens. Et puis si les gens avaient envie de voir autre chose, c'est pas grave, j'aurais essayé. En tout cas, je me sens pas remis en question personnellement.
T'as moins à prouver, t'as l'impression ?
Peut-être qu'il doit y avoir de ça, mais je suis même pas sûr. Je pense qu'avant, j'avais l'impression de jouer ma vie. Et que du coup, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas grave, je me sentirais pas rejeté. Je vis moins personnellement.
Ouais.
C'est vrai que ta chaîne s'appelle C'est ton nom.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, c'est vrai. C'est
donc
vrai.
C'est un truc, moi c'est une émission, et donc le concept, et moi je suis dedans, et je l'anime. Et puis surtout, tu vois, j'ai adoré me faire remplacer dans Rendez-vous en Terre Inconnue.
Ouais.
C'est très chouette. C'est mon psy m'avait dit il y a très longtemps que j'avais déplacé mon ego de ma personne à mes idées.
Ok, donc tu prends plus personnellement les choses ?
Non, ça veut dire que par exemple, que quand on est dans l'image, souvent quand on est à l'image, c'est important pour nous d'avoir une, tu vois, d'être à notre avantage, ouais. Ou alors du coup de est-ce que il y a des gens qui regardent combien de photos il y a d'eux dans la presse au moment de la promo et tout. Moi par contre, je peux être très très flatté si une de mes idées fait le tour du monde. Tu vois, quand Panique dans l'oreillette a existé en Espagne ou au Liban, ou la parenthèse inattendue, ça existe au Québec en ce moment, c'est un phénomène. Ça fait 37% de part de marché, ça s'appelle la vraie nature. Ouais. Et là, vraiment, c'est, je suis heureux, je suis fier. Et donc voilà, donc je me confonds pas avec mes idées. C'est une idée, donc je me dis, si jamais ça fonctionne pas un dimanche à la campagne, je pense sincèrement que je me dirais, ben voilà, j'accepterai. Alors que ça pouvait être beaucoup plus dur avant.
C'est quoi ta mission de vie? Et est-ce que tu as l'impression... Jusqu'à maintenant, sur tout ton parcours de vie, il te reste encore plein de belles années à vivre, mais t'en as vécu plus que moi. Est-ce que t'as l'impression d'avoir été dans le bon chemin ?
Moi, je crois que j'étais obsédé par le sens très jeune, très très jeune. Alors, je sais qu'aujourd'hui, l'époque, c'est une crise de sens, et je suis très heureux, enfin, qu'il y ait une crise de sens. T'as reconnu, c'était « N'ayons pas peur des autres », et c'est ce qui nous a habités, et c'est pour ça qu'on donnait la parole aux gens pour dire « Regarde, voilà, mec, il est pas de ton pays, il te ressemble pas, tu le prends pour un sauvage, bah, sauf qu'il est quand même... plus intelligent parfois que nous, parce qu'ils détruisent pas la nature comme nous, ils sont dans la coopération alors que nous on l'est pas. Et quand je fais une émission comme Un dimanche à la campagne, c'est cette idée de transmettre pour aider. Donc moi je crois que je suis obsédé à l'idée de faire en sorte que les gens se sentent mieux à la fin d'une émission. Comment les gens se sentent d'ailleurs? J'aimerais que tout le monde se pose la question. Les mecs des chaînes info, j'aimerais qu'ils disent comment se sentent les gens à la fin du moment où j'ai parlé. Et donc ma mission de vie, c'est plus d'apaiser la souffrance, de donner de l'espoir. Je suis obsédé par ça, en fait. Moi, par exemple, je suis très connecté à ce qu'on appelle les changemakers, les acteurs du changement. Ça fait pas mal d'années que j'aurais de faire une émission là-dessus. Je le ferai peut-être sur YouTube.
Peut-être.
Mais tu vois, j'ai envie de mettre en avant ceux qui donnent, ceux qui font, pas ceux qui commentent en permanence, qui nous disent qu'ils ont peur. Ouais. Tout le monde a peur. Je veux dire, c'est quand tu te connectes au monde qu'on nous raconte, ça fait peur. Et derrière, il y a beaucoup plus de choses qui vont bien dans ce monde que de choses qui ne vont pas. Moi, je cite toujours un bouquin qui s'appelle « Humanité, une histoire optimiste », qui est un historien des Pays-Bas qui est jeune, hein, qui raconte finalement que dans l'histoire de l'humanité, le monde s'est jamais aussi bien porté. Alors, il y a toujours beaucoup de souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance. Ouais. Mais c'était pire avant. Donc ça rend optimiste de dire que finalement l'être humain, quand il s'intéresse à un problème, il le règle. Quand j'étais jeune, il y avait le trou dans la couche d'ozone. Un trou dans la couche d'ozone, on dirait un film de Roland Emmerich. Et en fait, l'humanité a réglé ça. Et donc, évidemment, tout ce qui se passe aujourd'hui, le réchauffement climatique, l'éco-anxiété, tout ça, c'est une prise de conscience qui n'existait pas avant.
Donc toi, t'es plutôt optimiste là-dessus?
Moi, je suis optimiste quand je vois votre génération déjà. Honnêtement, je considère que c'est pas les mêmes ambitions qu'à l'époque. Je trouve qu'il y a moins d'ego quand je vois la coopération qu'il y a entre vous, quand je vois tes émissions justement où je vois comment les gens se laissent la parole, s'écoutent, etc. Je sais que je t'avais dit ça, mais quand je t'ai rencontré le soir de l'avant-première avec Oli, à chaque fois que vous me présentiez un pote à vous, c'était incroyable les compliments que vous faisiez. Et puis j'ai réalisé que les gens de ma génération qui sont animateurs, que j'ai croisés plein de fois dans ma vie, je ne me souviens pas du compliment de l'un d'entre eux. Il y en a un, quand j'étais au chômage, c'est Laurent Ruquier qui m'avait dit « J'ai entendu parler de Panique dans l'oreillette, je crois que c'est la meilleure idée des 10 dernières années. » Ça m'a aidé à tenir 2 ans de plus.
Oh.
Donc j'ai attendu 7 ans. Mais c'est des gens qui sont dans la compétition. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas dans la compétition. J'ai l'impression qu'il y a une conscience incroyable, je le vois chez mon fils. Donc moi je suis optimiste parce que je pense que ceux qui vont avoir les choses en main, c'est votre génération. Et puis tous ces youtubeurs qui ont 15 millions de followers ou 10 millions de followers, je pense qu'à un moment donné ils vont se coucher le soir en se disant mais au fait je sers à quoi? Et peut-être qu'eux aussi vont s'intéresser au changement et donc du coup je compte sur vous.
Waouh, pression. Je suis complètement d'accord avec toi sur tout ça. Et je trouve que ça fait du bien aussi parce qu'on est dans une atmosphère où on nous rabâche beaucoup de choses négatives et ça crée une anxiété un peu paralysante. Alors que justement, c'est le moment de pas être paralysé et de faire les choses. J'ai envie de discuter avec toi pendant des heures encore, tu le sais, comme on l'a fait déjà plein de fois tout l'été. Mais on arrive déjà à la fin. Et pour la fin, j'aimerais reprendre la perche que tu m'as tendue. Comment tu te sens maintenant? Est-ce que tu as aimé cet entretien? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas eu le temps de dire?
Non, si je dis la vraie vérité. Je me dis, j'espère que ça a été à la hauteur de ses attentes à lui.
À moi?
Ouais.
Bien sûr, toujours.
Non, c'est
très intéressant.
Je me rends compte que ma pensée, c'est celle-là.
Donc, t'as encore besoin de plaire.
À toi.
Besoin d'être validé.
Non, tu vois, de pas te décevoir parce que je sais que t'aimes les choses authentiques et tout. Et je t'avouerai que quand t'es exposé, t'es habitué à te protéger.
Ouais.
Tu vois, quand je te répondais, j'essaie de pas d'être en confiance et tout. Mais ça m'est arrivé une fois ou deux de me dire, ah putain, ça va être repris. C'est pas la peine, il va y avoir que ça sur la réseau, etc. Et donc, c'était d'avoir. D'être à la hauteur de tes attentes.
Tu l'as été.
Super.
Franchement, je suis trop heureux que ce moment existe, parce que je trouve que ça fait vraiment partie, tu vois, d'une espèce de boucle qui est bouclée où je me dis, voilà, tu m'as inspiré et aujourd'hui on est là côte à côte. Et pour moi, c'est un cadeau énorme que tu me fais.
Et tu m'as inspiré, je peux le dire aussi. Puisque moi, comme tu m'avais dit que je t'avais inspiré, du coup, on s'est vu avant que cette émission existe. Tu es venu au bureau, etc. Et tu m'as dit, mais pourquoi tu n'essayes pas un truc où voilà, ça marche bien, on met des questions dans une petite boîte et puis les gens tirent des questions. Et alors, j'étais vraiment pas habitué à ça, mais ouais. Je suis obsédé par le storytelling. Et donc, je l'ai fait, je t'ai cité. Alors, si ça n'avait pas marché, je l'aurais coupé au montage.
Très bien.
Mais il se trouve que ça a très bien marché.
Génial.
Et donc, ça m'a plu aussi parce qu'en le disant, je pensais à ça. Que,
chacun s'auto-alimente.
Non, super. Puis tu m'inspires beaucoup, vraiment, sincèrement. Tu sais, je vais te dire un truc, c'est que moi, j'étais. Comment dire ? Dans un milieu qui n'était pas vraiment là où je me sentais à l'aise. Et je sais que toi, tu as une liberté qui me fait rêver.
Okay.
C'est-à-dire, quand on s'est rencontrés, j'ai trouvé que tu me disais, ouais, je peux faire cette émission. Et puis finalement, j'arrête, je fais autre chose. Quand j'ai vu le public autour de toi au Trianon, je me suis dit, ah, c'est génial, je ne connais pas ça, la communauté. Mmh. Nous, quand on est à la télévision, il y a plein de gens qui ne t'aiment pas, qui te regardent. Je n'ai jamais compris ça, le concept. Mais là, quand tu es sur une chaîne YouTube, les gens qui ne t'aiment pas, ils ne te regardent pas.
Je pense qu'il y a une proportion moindre. Mais il y a une partie des gens qui te regardent pas, mais qui te disent quand même que c'est de la merde ce que tu fais souvent.
Alors que bizarrement, ton boulot, c'est fait que pour les gens qui t'aiment.
Complètement, ouais. Mais tu sais que je discute avec plein de gens, créateurs, créatrices de contenu, qui ne veulent pas. Je sais que Léna Situation, elle en avait parlé publiquement, que c'était très stressant pour elle d'aller sur la chaîne des autres, parce qu'en fait, tu te frottes à un public qui n'est pas un public acquis, qui ne sont pas les gens qui te suivent. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, tu vois, on est plus de 500 000 abonnés sur la chaîne. Ça m'arrive très souvent de me dire pourquoi je vais aller sur France Inter où potentiellement je vais pas réussir à dire les choses que je veux parce que le temps de parole est moindre, parce que je vais être potentiellement moins bien accueilli ou qu'on va me poser une question qui va me mettre en galère et derrière ça va se retourner contre moi, alors que je peux parler à autant de gens, voire par moment plus de gens juste ici, et des gens qui ont envie d'écouter ce que j'ai à dire, quoi.
J'avoue que c'est un truc incroyable, donc tu m'inspires vraiment.
Merci, bah écoute, on s'inspire alors. N'hésitez pas à dire en commentaire, j'espère que vous avez apprécié ce moment, moi j'ai adoré. Puis n'hésitez pas à les regarder tous les dimanches, du coup, un dimanche à la campagne.
Il y a des gens que vous aimez, de votre génération, hein, je peux vous le dire.
C'est génial de faire de l'intergénérationnel. Franchement, c'est très
la vie, je comprends pas le concept. C'est dans la rue, il y a des gens qui me voient de ma génération. Hein. J'ai l'impression d'être Michael Jackson et qui engueulent leur fille parce qu'ils me connaissent pas. Et là, je dis, madame, vous connaissez Squeezie ? Elle me dit, qui ? La Gabi dit, ouais, je le connais.
Bien sûr.
Et donc, c'est pour ça que ça me plaît beaucoup aussi.
Trop bien. Merci encore. C'était un vrai cadeau. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.